France Inter, franceinter.com.
Les femmes sont exclues par leur état de toute espèce de gloire. Et quand il s'en trouve une, avec une âme assez élevée, il ne lui reste que l'étude pour la consoler de toutes les exclusions. Émilie du Châtelet. Ans d'histoire. Née dans une des plus grandes familles de la noblesse, rien ne prédestinait Émilie du Châtelet à devenir la première femme de science que la France ait jamais connue. Comme toutes les jeunes filles de son milieu, elle était destinée à entrer au couvent pour y apprendre les bonnes manières, en attendant d'être mariée plutôt que d'étudier les mathématiques, la philosophie et la physique de Newton, en étonnant les plus grands savants et les plus grands écrivains de son temps. Parmi eux, Voltaire, avec lequel elle formera le couple le plus extraordinaire du siècle des Lumières, jusqu'au 10 septembre 1749. Ce jour-là, celui que rien ni personne n'impressionnait ne cachait pas l'admiration ni la peine qu'il éprouvait en apprenant la mort de Madame du Châtelet, juste après qu'elle ait terminé l'œuvre la plus importante de sa vie, la traduction des principes mathématiques de Newton.
On a vu deux prodiges. L'un que Newton ait fait son ouvrage, l'autre qu'une dame l'ait traduit, éclairci et enrichi d'un commentaire. Ce que les plus savants hommes de France devaient faire et que les autres doivent étudier, Émilie de Breteuil, marquise du Châtelet, l'a entrepris et achevé, à l'étonnement et à la gloire de son pays. C'est une femme savante. Soucieuse de la postérité, la seule récompense de ceux qui servent public, la seule digne des grandes âmes, elle réussit à dérober à la mort ce qu'elle considérait comme la plus belle partie d'elle-même.
Elisabeth Badinter, bonjour.
Bonjour.
C'était le dernier hommage de Voltaire à celle qui avait partagé sa vie pendant plus de 16 ans, Madame du Châtelet, que l'on retrouve dans plusieurs de vos livres et dans le téléfilm dont on vient d'entendre un extrait et dont vous avez écrit le scénario. Une femme d'exception, comme il y en avait d'autres au siècle des Lumières, mais aucune dans le domaine où elle s'est illustrée, les sciences, les femmes en étaient totalement absentes, Elisabeth Badinter.
Et pour cause, vous l'avez dit dans votre introduction, on n'élève pas les petites filles comme les garçons. Et pour elle, effectivement, c'est le couvent, la couture, quelques notions de religion, apprendre à danser, se tenir dans le monde. Donc il n'y avait pas de possibilité d'accès ni aux sciences, ni même, par exemple, au latin, etc.
Mais pourquoi ? Parce qu'on les considère incompétentes par nature ou parce que ça
tout.
Ne se fait pas ?
C'est parce que la destination des femmes à cette époque était d'être bonne épouse, selon leur classe sociale, de savoir tenir salon ou de savoir tenir la cuisine, et bonne mère, ou en tous les cas de s'occuper des enfants. Donc, leur destination naturelle, et même encore sous Rousseau, il ne veut pas que Sophie soit aussi savante qu'Émile. Donc, on peut dire que arriver, si vous voulez, à s'intéresser d'une part et ensuite à pratiquer des disciplines aussi abstraites que sont les mathématiques ou la physique relève quasiment d'un petit miracle.
Alors, ce miracle, il est dû à trois choses, dites-vous, dans un de vos livres en ce qui concerne Émilie du Châtelet. Vous dites le travail, l'ambition et le don. Or, elle a un don pour les mathématiques qu'elle éprouve, qu'elle a très jeune.
Elle a d'abord, je crois, une curiosité intellectuelle qui est rare chez un enfant. Et en second lieu, elle s'intéresse au sujet abstrait. Elle aime les mathématiques, elle aime le calcul, mais c'est encore plus large que ça. C'est une petite fille, de ce que l'on sait, qui le soir, avant de se coucher, regarde les étoiles et a envie de savoir ce qui se passe dans les étoiles. Donc c'est une curiosité, je dirais, tous azimuts.
Un don, en tout cas, que remarque son père, le baron de Breteuil, qui l'encourage dans cette voie.
Entrez donc, mademoiselle ma fille. Émilie montre des dons si éclatants que je ne me résous pas à l'envoyer au couvent. Je veille personnellement à lui enseigner tout ce qui ne s'enseigne d'ordinaire qu'aux garçons.
Dieu nous garde des femmes savantes.
Savez-vous qu'hier, Émilie a réussi une division à 6 chiffres sans encre ni papier.
9 753 258 478 divisé par 258 403.
Émilie, mettez-vous à l'œuvre.
37 744,37.
Monsieur le géomètre.
Petite minute, Baron, je n'ai pas tout à fait terminé mes calculs.
Mais c'est exact.
Mademoiselle, il va falloir que vous m'expliquiez comment vous avez réussi ce prodige.
Je veux toujours satisfaire mon papa.
Fiez-vous à moi, monsieur. Lorsque le moment sera venu, ma fille saura abandonner ses chers compas pour tenir sagement sa position de femme auprès de l'époux que je lui aurai choisi.
Le rôle du père de Madame du Châtelet, qui était le baron de Breteuil, elle s'est appelée d'abord Breteuil, a été essentiel, Elisabeth Badinter.
Je pense, oui. Je pense que c'est une fille à père. Et c'est son père, qui peut-être avait l'âge d'être déjà le grand-père, qui c'était sa seule fille, a eu...
Il a eu à 53 ans,
oui, c'est assez tardif en plus pour l'époque. Et il a eu certainement une attirance, une attraction, une tendresse pour cette petite fille qui était assez rare à l'époque de la part des pères qui s'occupaient peu d'enfants. Et elle de même. Donc il y a eu là, j'ai envie de dire, presque une sorte de couple... Pas incestueux, bien sûr, mais un couple très étroit face à une mère, la baronne de Breteuil, qui était une femme assez dure, assez rude et assez austère. Et c'est comme ça qu'il a cédé au désir de sa petite fille de rester à la maison et il l'a fait élever exactement comme ses fils.
Il lui apprend les mathématiques, enfin il lui fait apprendre les mathématiques, le latin,
les langues.
Il lui ouvre sa bibliothèque qui était bien garnie. Il lui fait aussi rencontrer des plus grands savants de son temps. Très jeune, par exemple, elle s'adresse à Fontenelle dans le salon de son père.
Absolument. Vous savez, le père était probablement un libertin. Donc il avait, si vous voulez, été pas très très croyant. Et donc, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles il ne s'est effarouché d'aucune lecture de Madame du Châtelet. Oui, il recevait dans son salon Fontenelle en particulier, mais aussi le jeune Voltaire,
déjà,
poète. Oui, absolument. Et donc, il produisait sa fille dans son salon parce que c'était une sorte de jeune prodige.
Alors, cela dit, il la marie quand même. Elle a 19 ans. Elle est mariée à un homme de la noblesse d'épée, le marquis du Châtelet, dont elle aura 3 enfants, dont 2 survivront, Pauline et Louis-Marie. Alors, c'est une période pendant laquelle elle délaisse un peu les études et s'adonne à d'autres passions. Vous évoquez ses passions, le jeu, l'amour. Vous dites d'elle, c'est l'union des contraires, le vice et la vertu comprises.
C'est l'union des contraires parce que c'est à la fois une femme extrêmement intellectuelle. Elle aime les choses de l'esprit. J'ai presque envie de dire par-dessus tout. Et en même temps, c'est une femme qui a voulu profiter de tous les plaisirs sociaux, les plaisirs du corps. Elle est à la fois pleinement son corps et son esprit. Et donc, en même temps qu'elle est très austère, elle est aussi très libertine. Bref, c'est une femme qui a peu de préjugés et qui ne se refuse aucun plaisir.
Alors, l'amour, évidemment, avec un amour déçu, d'ailleurs, avec le comte de Guébriant qui va l'abandonner parce qu'elle est trop passionnée. Il y a également, ça se comprend mieux quand on connaît son destin, Maupertuis, le grand mathématicien et naturaliste de l'époque, qui fait partie de ses amants. Et puis, il y a celui avec lequel elle allait passer 16 ans de sa vie, rencontré ou retrouvé plutôt chez la duchesse de Saint-Pierre en 1733.
Sans Voltaire, Paris n'était plus Paris.
Comment trouvez-vous ma dernière protégée que vous venez d'applaudir?
C'est étrange, mais son visage m'est familier.
Ah, déjà amoureux de la marquise du Châtelet, vous ne le regretterez pas. Émilie est un tempérament, laissez-moi vous la présenter.
Émilie, la marquise sera-t-elle née Breteuil?
Parfaitement.
La marquise a emballé Voltaire comme une fille. Oh, vous voilà soudainement bien prude. Seriez-vous jalouse? Sans cul, sans hanches, la poitrine étroite, les pieds énormes, la bouche plate. Que peut-il bien lui trouver?
Quelque chose que vous et moi n'avons plus, ma chère. La fraîcheur. Il semble que votre vue est baissée, car on s'accorde à trouver la marquise belle femme.
Belle femme, et qui savait et qui aimait chanter, vous le rappelez aussi, Elisabeth Badinter. Vraiment, c'est une. Elle s'intéresse à tout, elle fait tout, elle est douée pour tout.
Et elle fait tout jusqu'à l'extrême. Ouais. Elle peut chanter, je crois, une trentaine d'actes d'opéra en une journée, épuisant les quelques spectateurs ou les quelques auditeurs qui voulaient bien. Elle est à l'extrême. Elle fait des séances en travaillant toute la nuit. Elle joue aux cartes en dépensant des sommes qu'elle n'a pas. C'est une femme qui vit chaque seconde de sa vie comme si ça allait être la dernière.
Belle ou pas belle, selon Madame du Deffand, on vient d'entendre ce qu'elle disait de Madame du Châtelet. Elle n'était pas très belle.
Ça, c'est la version de sa cousine, Madame du Deffand, très jalouse et très, très fine, très intelligente et très méchante. Mais je dirais que c'est difficile avec l'iconographie de le savoir précisément, mais c'est plutôt une jolie femme. Elle est très élancée, très fine, très sportive. Elle fait très, très attention à ce qu'elle mange et elle mange peu. Elle boit beaucoup de café et alors elle a... Peut-être pour compenser son côté très viril de femme de science et d'intellectuelle, elle a un goût qui faisait sourire Voltaire, presque caricatural, pour les froufrous, les pompons, les diamants, et si bien que quand elle se produisait dans le monde, tout le monde la trouvait trop.
Il l'appelait Madame Pompon Newton, justement. Alors, elle séduit Voltaire, qui était alors au sommet de sa gloire, et qui avait 10 ans de plus qu'elle. Elle va l'héberger dans son château de Ciré, en Lorraine, quand il est obligé de quitter Paris après avoir écrit les lettres anglaises, je crois, c'est
oui,
ça. Et puis, alors, il va passer auprès d'elle 10 ans dans ce château de Ciré. Quelle était la nature de leur rapport, Elisabeth Badinter? Plus que des amants, ils étaient, disait Voltaire, des philosophes voluptueux.
Je crois que ça, c'est une parfaite définition de leur relation, au moins les 5 premières années, où ils ont eu un tête-à-tête à Ciré, qui était sûrement d'une grande richesse et plein de plaisir qu'ils ont partagé. Sa relation avec Voltaire, elle est exceptionnelle, parce que, d'une part... Elle est vraiment son égale du point de vue intellectuel. C'est elle qui l'introduit à l'étude de la Bible, à l'étude de Newton, de la physique et des mathématiques, au moins autant qu'il peut la suivre. Je dirais que c'est elle qui a eu plus d'influence sur lui, ce qui est rare dans des couples de l'époque, du point de vue intellectuel. Elle est celle qui l'introduit, on peut le dire, aux sciences. Mais par ailleurs... ils ont des goûts communs. Voltaire était dans un état, comment dirais-je, de plaisir intense d'écrire pour elle des petites piécettes qui pourraient jouer dans leur petit théâtre de Ciré, bien qu'il n'y ait que le chien de Madame du Châtelet pour spectateur.
Ils aimaient parce qu'elle jouait la comédie. En plus.
Elle jouait très bien la comédie, et notamment les rôles comiques, les rôles où elle adorait être ridicule et faire rire à ses dépens. Et donc, ils ont tous ces, je dirais, ces goûts communs. Et il faut dire que Madame du Châtelet avait un tempérament extrême aussi, et pas Voltaire, ça tout le monde le sait. Et donc peut-être que ce tête-à-tête a aussi réveillé je dirais, la volupté voltairienne.
Et puis bon, ils éprouvaient une admiration réciproque l'un pour l'autre. Elle admirait l'écrivain et il admirait la femme de science.
Tous les corps s'attirent mutuellement en proportion de leur masse et l'inverse du carré de la distance. Soit grand F, la force d'attraction. Grand G, la constante de la gravitation. M1.
Oh mon Dieu! Madame Pompon Newton ne connaît pas la faim et la soif. Si vous étiez un homme, votre place serait certes à l'Académie. Parmi ces inquisiteurs qui pensent avoir tout compris, tout deviné une fois pour toutes.
C'est vous qui espérez les rejoindre!
Mais c'était votre idée, madame! Et je vois bien que cela vous tracasse fort désormais.
Je n'y suis pour rien si vous êtes femme. Et de ce seul fait condamné à jamais franchir leur porte. Je n'ai pas fait ce monde où l'on refuse de vous donner un rôle. Retournez à vos fins freluches. C'est là votre place. Je suis Voltaire, savez-vous? Et vous n'êtes que ma maîtresse.
Voltaire et Madame du Châtelet, bon, ils étaient complémentaires, ils devaient évidemment s'engueuler comme tous les couples de l'époque. D'ailleurs, le mari n'y voyait pas d'inconvénient, le véritable mari, Monsieur du Châtelet.
Peut-être était-il malheureux, mais il avait au moins cet amour pour elle qui faisait que comme il la trouvait infiniment supérieure à lui, ah oui, il ne pouvait pas se permettre de l'empêcher de vivre comme elle l'entendait. Ce qui est une grandeur de Monsieur du Châtelet.
Et auprès de Voltaire, alors, ils étaient complices, ils étaient aussi concurrents. On les a entendus évoquer l'Académie des sciences. Alors là, il s'est passé une chose assez extraordinaire. Il y a l'Académie des sciences qui met au concours un travail sur le feu dont on ignore totalement la nature à l'époque. Je crois qu'on ignore même l'existence de l'oxygène. Et tous les deux travaillent, chacun de son côté, sans savoir que l'autre en fait autant, pour gagner ce concours.
Oui, nous avons imaginé avec ma co-scénariste Chantal de Ruder cette scène un petit peu dramatique de rivalité dont je ne peux pas jurer qu'elle était tout à fait exacte. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que Madame du Châtelet avait de l'ambition. Une femme ambitieuse à l'époque, et surtout dans le domaine des sciences, c'est absolument unique. Et Voltaire avait un goût des académies insatiable. Le nombre d'académies où il demandait lui-même à être intégré est considérable. Et il pensait à une époque où il était plutôt mal avec les autorités que s'il rentrait à l'Académie des sciences, ça pourrait peut-être arranger un peu les choses. Donc il y a un concours et elle pousse Voltaire à se envoyer sa contribution sur la nature du feu, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, c'était anonyme. On envoyait sa contribution.
Le concours, oui.
Le concours était anonyme. Et Madame du Châtelet a eu cette idée de concourir, puisque c'était anonymement. On ne pouvait pas savoir d'emblée que c'était une femme et refuser de la lire. Et de fait, ils n'ont pas gagné ni l'un ni l'autre cette année-là, mais on a trouvé remarquable leur contribution, et en particulier celle de Madame du Châtelet. Et Voltaire, et surtout Maupertuis, qui est académicien et qui a une grande admiration pour le travail de Madame du Châtelet, obtient que l'Académie publie leur mémoire.
Ce qui n'avait jamais été fait.
La publication d'un mémoire sur les sciences d'une femme, jamais. Et ça a été pour elle, je suppose, une grande victoire. Et elle s'est sentie capable de provoquer le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, qui était un très honorable monsieur d'Orthous de Méran, parce qu'elle était déjà, si vous voulez, sur le versant Newton, révolutionnaire de la physique, alors que l'Académie des sciences, et d'Orthous de Méran en particulier, tenait ferme sur la physique cartésienne, qui était, il faut le dire, déjà démodée. Et donc, elle a eu ce débat public, ils se sont, comme un duel, on pourrait dire, sorte de duel intellectuel, publié, etc. Elle l'a provoqué, c'est la première fois, c'est un scandale, quoi.
Je rappelle les trois qualités qui expliquent, selon vous, Elisabeth Badinter, le succès de Madame du Châtelet. Donc les dons, on en a parlé, il y avait aussi l'ambition, vous venez d'en dire quelques mots, le travail, une capacité de travail absolument phénoménale. Vous dites qu'elle se trempait les bras dans l'eau froide pour rester éveillée.
Oui,
elle dormait 2 heures quoi, par nuit.
Alors ça, c'est à l'époque où final de son travail sur Newton. Mais même si elle dormait très peu la nuit, elle dormait 3-4 heures par nuit, pas plus de toute façon. Et je regarde avec admiration le fait qu'elle était capable de travailler vraiment. Et ça, ce n'est pas une formule, 18 heures par jour. Et quand elle avait fini de travailler, d'aller chanter des actes d'opéra. Donc ça veut dire une femme d'une énergie hors du commun. Et donc, elle avait du temps, et elle le prenait, pour faire de multiples choses. Oui, c'est une femme qui travaille, qui est à son bureau, qui transpire sang et eau pour essayer de comprendre des choses extrêmement difficiles. Et elle est, de facto, une des 20 ou 30 personnes en Europe qui sont au plus haut degré des sciences à l'époque.
Et reconnue dans toute l'Europe, elle écrit par exemple, très pédagogiquement, un livre de vulgarisation pour son fils, Les institutions de physique, qui est salué à Bologne, qui est salué partout.
En Allemagne.
Oui, sauf en France. Hein, on la soupçonne, toujours le même secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, qui dit que ce n'est pas elle qui l'a écrit. On n'arrive pas à admettre qu'une femme puisse obtenir du succès, réussir dans les sciences.
Absolument, mais d'ailleurs, il n'y avait pas de modèle avant elle. Elle était la première. Et vous savez, il y a toujours cette tendance, peut-être plus aujourd'hui, je veux le croire, que quand une femme réussit quelque chose de très difficile du point de vue intellectuel, on dit qu'il y a un homme derrière. Mmh. Et pour elle, ça a été constamment le cas. C'est vrai qu'elle est autodidacte, puisqu'il n'y a pas de grand lycée pour femmes, il n'y a pas d'université, et qu'elle a appris finalement ces mathématiques modernes du calcul intégral et différentiel, ce qui était très difficile pour elle. Elle l'a appris par des leçons particulières, avec Maupertuis, avec Clairaut, les plus grands. Mais on se dit toujours, ah ben non, ça doit être Clairaut qui était son professeur qui a écrit ça, ou bien Koenig qui a été un autre de ses professeurs qui a écrit ça. C'est un peu un leitmotiv en ce qui concerne les femmes.
En tout cas, en France, elle est peut-être traitée comme ça. À Bologne, on traduit justement ces institutions de physique.
On l'a fait rentrer à l'Académie de Bologne, oui, qui était la plus prestigieuse d'Italie. Mmh. Et il faut que vous sachiez aussi qu'elle a été classée par la revue la plus importante, à l'époque, la revue allemande la plus importante, comme une des 10 plus grands savants d'Europe. Donc, effectivement, en Italie comme en Allemagne, et même en Angleterre, elle avait des correspondances avec les savants anglais qui la reconnaissaient tout à fait comme leur égale.
Accueillie aussi à la cour du roi Stanislas à Lunéville, où elle rencontre son dernier amour. Ses relations se sont un peu distendues, en tout cas physiques, avec Voltaire. Elle est amoureuse d'un certain Saint-Lambert, duquel d'ailleurs elle va attendre un enfant au moment précis où elle est en train d'écrire, vous l'avez dit depuis quelques années déjà, son œuvre majeure, l'œuvre majeure d'Émilie du Châtelet, qui est la traduction du livre le plus important de Newton, Les principes mathématiques.
J'ai tout perdu. La jeunesse, la réputation, l'amour. Je ne survivrai pas à cette grossesse.
Ah, mais que vous êtes sombre, mon ami. Cessez de broyer du noir.
Mon tour est passé, comme le disait Madame de Boufflers.
Je vous supplie de combattre cette mélancolie qui empoisonne votre esprit. Vous êtes la divine Émilie.
Divine.
Souvenez-vous de vos exploits, Émilie. Vous êtes la première à avoir défié les hommes de science. Vous les avez forcés à admettre votre valeur.
Le souvenir, est-ce tout ce qu'il reste?
Dans votre cas, cela s'appelle la postérité.
Vous êtes le seul véritable homme de science de ce pays, ma chère.
Je n'ai aucun désir du monde, monsieur. Mais l'intention de travailler à mon Newton, comme d'autres, entre au couvent. Il ne me reste que l'étude et mon ouvrage. Pour donner un sens à ma misérable existence.
Et son Newton, eh bien, elle l'écrira. Et lorsqu'il y a l'extérieur, en vous lisant, Elisabeth Badinter, c'est que ce livre, qui est peut-être considéré comme le plus important de Émilie du Châtelet, elle le donne à son éditeur quelques heures avant sa mort. Elle l'achève et elle le donne.
Elle a eu une intuition depuis le début de sa grossesse qu'elle va mourir. Madame du Châtelet est probablement une femme athée, donc sans espérance de l'au-delà. Et donc, il est absolument essentiel pour elle de laisser trace d'elle-même sur cette terre. Et elle pense que c'est en faisant ce travail de traduction, ce qui était extrêmement difficile de traduire le latin de Newton, en faisant ce travail de traduction et de commentaire du grand œuvre de Newton, qu'elle a peut-être une chance de laisser trace d'elle-même. Et ça devient quelque chose d'obsessionnel, ce travail qu'elle a commencé dans les années 1745, soit 4 ans avant sa mort. La dernière année, elle dit « il faut que je termine ». Et pour ça, elle qui est passionnément éprise de ce jeune Blanc-Bec qui est le poète Saint-Lambert, elle préfère même rester à Paris parce qu'il y a les Clairaut à qui elle peut demander des renseignements, etc. Elle préfère rester à Paris, éloignée de lui, lui écrire 3 lettres par jour s'il le faut, mais finir cette œuvre considérable. Et elle dit « il faut que je finisse et que je le fasse bien ». parce qu'il y va de ma postérité.
En quoi cette œuvre est-elle importante ? Après tout, ce n'est qu'une tradition, Elisabeth Badinter de Newton.
Écoutez, c'est une œuvre, bon, ça n'est pas l'œuvre de Marie Curie, certainement, mais il est vrai que pour les savants français de l'époque, c'était très très important d'avoir accès à cette physique révolutionnaire.
Je crois qu'on lit encore cette traduction.
Alors, on l'a lu jusqu'en 2001. Oui. Et depuis, il y a eu une édition contemporaine, nouvelle, depuis 2001. Mais vous pensez que 250 ans, les historiens des sciences et les savants qui voulaient lire Newton dans le texte devaient passer par le travail de Madame du Châtelet. Et je dirais que dans toute l'Europe, au XVIIIe siècle, quand on veut enseigner la physique de Newton, c'était toujours dans le livre de Madame du Châtelet.
Alors, elle meurt donc à cause d'ailleurs de cet accouchement tardif, puisqu'elle avait 43 ans, et elle est saluée par quand même par Voltaire, qui lui rend un hommage magnifique. Plusieurs, d'ailleurs, il y a beaucoup de textes de Voltaire sur ce que représentait pour lui Madame du Châtelet. Est-ce qu'on peut parler d'elle comme d'une féministe avant la lettre Elisabeth Badinter ? D'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle n'a pas pu entrer à l'Académie des sciences, et non seulement ça, mais on a attendu 1979 pour que la première femme entre à l'Académie des sciences, 230 ans après la mort de Madame du Châtelet, même Marie Curie n'avait pas pu y entrer.
Ça, c'est à l'Académie qu'il faut demander des comptes. Mais je ne dirais pas que Madame du Châtelet était féministe, même si elle a réfléchi sur la condition des femmes. Et dans ce très beau texte, qui est ce petit discours sur le bonheur, elle parle justement de la condition, comment dirais-je, l'impossibilité pour les femmes d'obtenir la gloire. Et encore une fois, c'était ça qui l'intéressait. Alors, dire qu'elle est féministe, non, parce qu'elle ne s'occupe que des femmes de sa condition, à elle. Et finalement, elle n'a pas, je veux dire, le souci des autres femmes.
Merci Elisabeth Badinter. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, Madame du Châtelet, Madame d'Épinay, ou L'ambition féminine au XVIIIe siècle, publié chez Flammarion, et qui vient d'être réédité en livre de poche sous le titre Émilie, car les deux s'appelaient Émilie, L'ambition féminine au XVIIIe siècle. Pour les jeunes lecteurs également, et même pour les plus âgés, parce que moi je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt, je signale La passion d'Émilie, à lire dès l'âge de 7 ans chez Gallimard Jeunesse, et que vous avez écrit avec Jacqueline Duhem. Et puis enfin votre dernier livre, Les passions intellectuelles, qui est paru en 3 volumes chez Fayard, et on le retrouve encore Madame du Châtelet. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm Divine Émilie d'Arnaud Sélignac, dont vous avez écrit le scénario, Elisabeth Badinter, avec Chantal de Ruder et avec Léa Drucker dans le rôle de Madame du Châtelet, un téléfilm diffusé sur France 3 le 29 décembre dernier. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Christophe Papon et Loïc Frapsos, documentation Anne-Cécile Perrin, Emmanuel Fournier et Claire Destacan, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, avec Malek Chebel, les grands courants de l'islam.